la délivrance de l'emprise des démons. Par Zacharia Tanifomum, Table des matières, chapitre 1, les démons, chapitre 2, l'attaque des chrétiens par les démons, chapitre 3, le ministère de Jésus à l'égard de ceux qui étaient attaqués par des démons, chapitre 4, le ministère des chrétiens à l'égard de ceux qui sont attaqués par des démons, chapitre 5, comment garder sa délivrance et en finir avec le passé. Préface. La première fois où le Seigneur me mit à cœur de donner à l'église de Yaoundé, dont je suis l'un des anciens enseignants, une série de messages sur la délivrance de l'emprise des démons et des mauvais esprits, comme d'habitude, je pris le temps de lire à plusieurs reprises le Nouveau Testament pour me rafraîchir les idées sur ce qu'il en dit. À la fin de mes préparatifs, je m'installais dans mon bureau, dans notre clinique pour maladies spirituelles, pour rédiger les messages. C'est alors que je me rendis compte que je m'étais engagé dans de sérieux problèmes. Tout d'abord, les lumières du bureau commencèrent par s'éteindre et se rallumer de façon inattendue. Je ne pouvais pas travailler normalement. Certains soirs, j'avais la main droite paralysée au point que je ne pouvais plus écrire. Mais lorsque je me relevais pour rentrer à la maison, j'étais instantanément guéri. Une nuit, j'eus si mal au cœur, à la tête et dans tout le corps, que je rentrais chez moi en pensant que c'était ma dernière nuit sur la terre. À cause de ces violentes attaques, je fis peu de progrès dans la rédaction de ce livre. C'est alors que l'une de mes collaboratrices dans le Seigneur se proposa de prier pour moi pendant que j'écrirais. Ainsi, pendant que je rédigeais, elle priait. C'est ainsi que je pus terminer ces messages et les prêcher. Grâce à ces messages, le ministère de délivrance fut restauré dans de nombreuses assemblées de notre pays et nous remercions Dieu pour cela. Le diable ne s'est pas croisé les bras pendant que nous délivrions les captifs. Ce message fut attaqué par des chrétiens qui, sans avoir jamais chassé un seul démon d'un incroyant, pensaient connaître ce qu'était un ministère de délivrance et comment il devait s'effectuer. Je m'attends à des attaques similaires contre ce livre. Cela fait bientôt 4 ans que ces messages ont été écrits et prêchent. J'ai toujours le même fardeau de voir des chrétiens compétents délivrer ceux qui sont attaqués par des démons. L'augmentation du nombre de personnes nécessitant une délivrance et les dommages causés par les démons au royaume de Dieu m'ont obligé à reprendre les messages originaux et à les publier sous forme de livres. Une fois de plus, l'ennemi m'a soumis à de violentes attaques. Je ne partagerai pas ce que le prince des démons a mis en œuvre pour m'empêcher d'écrire ce livre. Je me contenterai de vous dire que le combat a été intense, très intense. Maintenant, ce livre est écrit et va être édité. J'en remercie le Seigneur Jésus, le roi victorieux, qui a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il est mon Seigneur et mon aide. Je remercie tous les saints qui ont prié et jeûné pour moi pendant que j'écrivais ce livre. Je ne peux pas imaginer ce que cela aurait pu être sans eux. Je publie ce livre en priant que le Seigneur l'utilise pour te bénir et pour en bénir d'autres au travers de toi. Puisse le Seigneur l'utiliser pour contribuer à la destruction du royaume maudit de Satan? J'ai lu beaucoup de livres traitant de ce sujet. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour tout ce que j'ai reçu du livre « La guerre aux saints » de Jesse Ben Lewis et du livre « Deliverus from Evil, délivre-nous du malin » de Don Basham. Zacharia Tanifomum BP, 7100 Yaoundé de Cameroun Douala, le 24 mars 1985, page 6, chapitre 1, les démons, introduction. Au commencement, Dieu décida d'établir son royaume. Le diable se rebella et décida d'établir un royaume rival. Le dessein du diable est d'imiter le royaume de Dieu, de le combattre et, si possible, de le renverser. Le royaume du diable est bâti sur le même modèle que celui de Dieu. Satan était autrefois un puissant prince de Dieu. Il est parfaitement au courant des dispositions qui existent dans le royaume de Dieu. Toutes les fois que nous rencontrons une manifestation de la puissance satanique, nous pouvons être certains qu'il existe une puissance divine dont cette manifestation satanique est l'imitation. Considérons quelques exemples. Il existe une trinité ou trilogie satanique, de même qu'il existe une sainte trinité. le Père, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. La Trinité satanique, le monde, le diable, la chair. La Trinité satanique est dirigée par le diable. La Sainte Trinité est dirigée par Dieu le Père. La Trinité et le royaume satanique sont le chef-d'œuvre de Satan. Le royaume du diable est le royaume de ce monde. Il est le prince et le maître de ce monde. Le royaume du Père est le royaume des cieux. Il est le Seigneur du ciel. Dans sa pensée, Dieu voulait qu'en coopération avec lui, l'homme régnait et domine sur le monde. Le diable entra en scène, trompa l'homme et le fit s'égarer. Il l'utilise maintenant sur terre pour s'opposer à Dieu. L'homme est au centre du conflit entre Dieu et Satan. Le monde est aussi au centre du conflit entre Dieu et Satan. Le dessein de Dieu est que l'homme lui appartienne totalement et que sa volonté soit faite sur toute la terre comme elle l'est au ciel. À cause de ces deux maîtres qui sont opposés à 100%, il y a un conflit. Ce conflit signifie qu'il n'y a pas de position neutre. Il est absolument impossible d'être neutre. Soit c'est Dieu qui est ton père, soit c'est le diable. Chacune de tes pensées sert soit Dieu, soit le diable. Chacune de tes paroles sert soit Dieu, soit le diable. Chacune de tes actions sert soit Dieu, soit le diable. Il n'existe pas de pensée, de parole ou d'action neutre. Il n'existe pas de pensée, de parole ou d'action innocente. Chacune d'elles est engagée dans ce combat. En dernière analyse, il ne s'agit pas de savoir si ce sont de bonnes ou de mauvaises pensées, paroles ou actions. Il s'agit de savoir si elles sont de Dieu ou de Satan. Il s'agit de savoir si elles servent Dieu ou le diable. Il s'agit de comprendre quelle est leur utilité finale. Certaines choses peuvent apparemment être utilisées dans le service de Dieu, par exemple, de légers compromis, ici et là, peuvent paraître servir les intérêts de Dieu dans l'immédiat, mais, en dernière analyse, on s'apercevra qu'ils auront servi à édifier le royaume du diable. Face à une décision, ne te demande pas si la chose est bonne ou mauvaise, si elle est utile ou inutile. La question véritable qu'il faut te poser est-elle de Dieu ou de Satan? Il ne s'agit pas de savoir si cette action servira les intérêts de Dieu maintenant. La question est de savoir si cette action servira les intérêts de Dieu maintenant et demain, l'an prochain et dans 1000 ans, lorsqu'elle est examinée par Dieu du point de vue de l'éternité. Ceux qui veulent coopérer avec Dieu pour l'édification de son royaume et pour le renversement de celui de Satan doivent faire toutes choses, non pas simplement pour le présent, mais avec l'éternité en vue. Ceci est très important. Toute action doit aussi être considérée selon deux perspectives. 1. Sa contribution à l'édification du royaume de Dieu. 2. Sa contribution à la destruction et au renversement du royaume de Satan. Il ne suffit pas d'être engagé dans l'édification du royaume de Dieu. On doit aussi être engagé dans la destruction du royaume de Satan. Un homme ayant atteint une certaine stature spirituelle doit être connu dans le royaume de Dieu où il apporte de la joie parce qu'il contribue à le bâtir. Il doit aussi être connu dans le royaume des ténèbres où il apporte de la tristesse parce qu'il contribue à le détruire. En un certain sens, certains favoris du ciel n'entreprennent aucune œuvre de construction. Ils se consacrent simplement à la destruction du royaume des ténèbres. À cause de la gravité du conflit, l'armée de l'ennemi est bien organisée et bien structurée. En plus de la trinité satanique, la hiérarchie s'établit comme suit les dominations, autorité, prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes, démons. Ces cinq groupes constituent cinq ordres. Il existe un certain nombre de dominations, probablement organisées par ordre d'importance. La hiérarchie est de la plus grande importance dans le royaume de Satan. L'obéissance au supérieur immédiat est d'une importance primordiale. Les ordres sont donnés par Satan et descendent le long de la hiérarchie jusqu'à celui qui doit les exécuter, sous l'autorité de son chef immédiat. Le diable ne laisse pas à son armée le soin de décider de la façon d'agir. Il impose à chacun ce qu'il doit faire. Dans le royaume satanique, il n'y a pas de place pour ceux qui recherchent une gloire personnelle. Une personne et une seule doit recevoir toute la gloire Satan. Oh ! Puissent les chrétiens oublier la gloire de leur royaume et de leurs intérêts personnels et travailler pour la gloire de Jésus et rien que pour sa gloire. Les esprits méchants, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes et les démons sont tous des esprits méchants pour deux raisons. D'abord, ce sont tous des esprits. Ensuite, ils sont tous méchants. Vu de façon superficielle, toutes leurs actions ne sont pas nécessairement mauvaises, mais chacune d'elles, par leur existence même, a pour but de promouvoir le royaume de Satan et de renverser le royaume de Dieu. Puisque toutes leurs actions ont pour but ultime la destruction du royaume de Dieu, elles sont mauvaises, même si un bien temporaire peut en résulter. Les démons sont une classe d'esprits méchants. Cette catégorie de mauvais esprits, les démons, peut être chassée. Ils prennent résidence dans certaines personnes et certains endroits. Et, pour libérer ces personnes ou ces endroits, il faut chasser ces démons. On ne peut pas chasser les autres catégories de mauvais esprits. On ne peut que les renverser. Satan, en sa qualité de chef des dominations, peut remplir les fonctions de chacune des classes. Il est le chef des dominations. Il est aussi le chef des autorités et ainsi de suite. Il est le prince de ce monde, Jean 12, 31, le prince de la puissance de l'air Ephésien 2, 2, le prince des démons Matthieu 12, 24. Satan lui-même peut aussi entrer dans une personne et l'habiter, comme le font les démons. Satan était autour de Judas en durcissant son cœur à l'amour de Jésus, lui injectant toutes sortes d'idées dans ses pensées. Lorsque Judas lui céda, la Bible dit ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas Jean 13, 26-27. Auparavant, Satan agissait sur lui de l'extérieur. Maintenant qu'il était à l'intérieur, il commençait sa tâche finale qui se termina par le suicide de Judas. De cette façon, le diable s'assura que Judas lui appartiendrait à jamais. Au cours du ministère de délivrance, nous avons rencontré des démons qui ont dit s'appeler le chef. Quand nous avons insisté, ils ont révélé leur identité comme étant Lucifer, Satan, le diable, etc. Selon notre expérience, ce sont là les démons les plus difficiles à chasser. Parfois des démons de rang inférieur se plaignaient du fait que leur chef ne leur permettait pas de sortir. Évidemment, ils ont été souvent obligés de partir et nous avons engagé la bataille finale avec le démon Lucifer jusqu'à la victoire. Les personnes orgueilleuses sont les plus susceptibles d'être habitées par Satan lui-même, car lorsqu'on rencontre l'orgueil, on est en présence de l'essence même du péché qui conduisit Satan à la rébellion et à la damnation. Les orgueilleux de cœur doivent faire quelque chose à ce sujet avant que Satan ne fasse quelque chose en eux. Une personne qui reconnaît souvent son orgueil, mais ne fait rien à ce sujet est d'une certaine manière en train de s'admirer parce qu'elle est orgueilleuse. Elle pourrait reconnaître que c'est mauvais, mais elle y prend plaisir et n'a aucun désir de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Elle est en train de courtiser le diable et de lui demander d'entrer en elle. Les personnes orgueilleuses manifestent invariablement la présence des démons, soit qu'ils exercent une oppression, soit que leur présence se manifeste par des tendances telles que l'égocentrisme, le fait d'être excessivement centré sur soi, ou par l'hypersensibilité, etc. Les démons, leur origine et leur nature. Nombreux sont ceux qui pensent que les démons sont les anges déchus qui s'étaient rebellés en même temps que Satan, et qui furent ainsi chassés du ciel avec lui. La Bible dit car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. 2 Pierre 2, 4, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude 6. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25-41. Les démons font partie de l'armée de Satan. Bien qu'enchaînés, ils jouissent d'une liberté limitée, de même que le diable en jouit. Ils ont un chef et appartiennent au royaume satanique. Ils n'ont pas de corps et sont généralement invisibles. Ils préfèrent certains endroits à d'autres et habitent ces endroits. Il existe des maisons hantées, des forêts hantées, ainsi de suite. Ce sont des endroits où les démons ont fait leur demeure et, de ce fait, les démons s'y rassemblent. Les démons ne sont pas des influences. Ce sont des personnes, tout comme les anges de Dieu. Ils présentent les caractéristiques suivantes qui font qu'ils ne sont pas des influences. Ils peuvent parler. Et il lui demanda, quel est ton nom ? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs marques 5, 9. 2. Ils comprennent. Dans la référence ci-dessus, ils comprirent la question de Jésus et lui répondirent. 3. Ils savent comment agir avec les gens. Ils supplièrent Jésus Marc 5, 12. Ils ne lui parlèrent pas de manière grossière, puisqu'ils savaient qu'il avait autorité sur eux. 4. Ils peuvent croire, jusqu'à un certain point. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19. 5. Ils peuvent prier. Et ils le prient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Marc 5, 10. Et les démons le prièrent disant « Envoyez-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Marc 5, 12. 6. Ils peuvent exercer leur volonté. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Luc 11, 24. 7. Ils prennent soin les uns des autres. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il prend ces autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent la dernière condition de cet homme est pire que la première. Luc 11, 25-26. 8. Ils coopèrent les uns avec les autres. Voir Luc 11, 25-26. 9. Ils connaissent leur destin futur, et voici ils s'écrièrent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Matthieu 8, 29. Dit-il, ils sont engagés à travailler pour la gloire de Satan ? Leur but est la victoire globale, et non pas simplement une victoire dans de petits combats. Ils peuvent se laisser chasser par la puissance de Satan, s'ils peuvent y gagner quelque chose de plus grand ? Jésus demanda aux pharisiens, « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils » Matthieu 12, 27. Jésus reconnaît par là que les fils des pharisiens chassaient effectivement des démons, mais qu'ils utilisaient la puissance de Satan. Je connais des gens qui n'appartiennent pas à l'armée de Dieu, des non-chrétiens, qui chassent des démons. C'est une ruse du diable pour faire en sorte que Satan gagne quelque chose de plus grand. Il permettra qu'un démon soit chassé s'il peut par là renforcer son règne dans de nombreuses vies. Il est prêt à perdre un homme pendant un jour pour le gagner, par la suite, à jamais. Les sorciers et les gens semblables utilisent la puissance de Satan pour guérir et pour révéler des choses secrètes, mais le but final est de guérir la personne afin qu'elle se confie en une mauvaise puissance et qu'ainsi elle appartienne de façon permanente à Satan. Personne ne devrait se laisser exalter par une simple guérison. La question qu'il faut se poser est celle-ci : quelle est la condition finale de la personne qui a été guérie ? Est-elle venue à Jésus pour la plus grande des guérisons, celle du péché ? Les démons, leurs manifestations. Les manifestations des démons imitent, dans une certaine mesure, les manifestations du Saint-Esprit. La plupart sont étranges, de même que le sont les manifestations du Saint-Esprit. Voici certaines manifestations qui caractérisent la présence d'un ou de plusieurs démons dans une personne. 1. Un bavardage incontrôlable, ponctué parfois de cris. Parfois la personne démonisée parle toute seule. Lorsqu'on écoute, on pense qu'elle parle à quelqu'un qui lui répond à son tour. Le démon qui se manifeste par le bavardage ne peut pas supporter le moindre calme. Il faut qu'il parle. Même si on lui demande de rester calme, il continuera à parler à travers la personne. 2. Une réserve incontrôlable. Certains démons se manifestent par une réserve inhabituelle. La personne est presque tout le temps calme. Une telle personne aime la solitude ? Elle peut s'enfermer seule plusieurs jours dans une maison, non parce qu'elle veut faire quelque chose nécessitant la solitude, mais parce que le démon est plus heureux dans la solitude ? Si des gens rompent la solitude d'une telle personne, elle fait tout pour la rétablir. 3. Un amour incontrôlable pour la nourriture. La personne n'arrête pas de manger. Elle pense à la nourriture, fait des plans pour se nourrir, ou se querelle avec vous si vous ne lui donnez pas à manger. Elle peut être grasse ou mince, mais elle est liée par la nourriture d'une manière inhabituelle. Une telle personne a un appétit qui s'étend à la plus grande gamme de nourriture possible. C'est comme si toute chose devait aboutir dans sa bouche et dans son estomac. 4. Un désir incontrôlable d'être remarqué. Une personne ayant un démon qui se manifeste par un désir intense d'être remarquée fera tout pour attirer l'attention sur elle. Ses paroles, ses actes et tout son comportement auront pour but de la faire remarquer. Elle peut même faire des choses folles pour être vue. Elle peut commettre un crime, tuer et se brûler, etc. pour se faire remarquer. Peu importe la personne qui lui prête attention. Tout ce qui l'intéresse, c'est que quelqu'un lui prête attention. 5. Une convoitise sexuelle incontrôlable. Il m'est arrivé d'aider un homme qui avait couché avec plus de 300 femmes. Il avait couché avec des enfants, des mamans et des grands-mères. Il avait couché avec une femme, sa fille et sa mère. J'étais écœurée de l'écouter confesser les actes atroces de sa vie. J'étais tellement choquée qu'il me fallut 3 jours pour me remettre. Il était excité, attiré par tout ce qui avait une robe. En plus, il était totalement perdu dans une vie de masturbation et pratiquait aussi l'homosexualité. J'ai aussi eu à aider une jeune fille qui, à 16 ans, pouvait se donner à 10 hommes le même jour. Ce sont là des manifestations évidentes de démons. 6. Une colère incontrôlable. 7. Un besoin incontrôlable de mentir. Un tel démon fait mentir la personne qui en est possédée pour qu'elle se sorte d'une situation embarrassante. Elle ment aussi lorsque ce n'est absolument pas nécessaire. Elle ment pour s'amuser. Elle crée des mensonges et aime mentir. Même si elle veut dire la vérité, elle se retrouve en train de mentir. Finalement, elle finit par croire ses mensonges et ne peut plus distinguer le mensonge de la vérité. 8. Un attachement inhabituel au surnaturel. Une fois, j'ai rencontré une femme qui était membre de 6 sociétés secrètes sataniques. Elle consultait chaque semaine les sorciers. Elle allait de sorcier en sorcier. Un jour, elle se rend chez un marabout pour se faire guérir d'un mal au bras et elle en est guérie. Une semaine plus tard, elle a mal au dos. Elle retourne chez le marabout qui fait disparaître la douleur. Puis c'est un mal de tête, etc., etc. Malheureusement, à cette époque, je n'étais pas encore expérimentée dans le discernement des manifestations des démons. Je lui avais simplement dit que consulter les marabouts était contraire à la parole de Dieu. Elle s'était fâchée et n'était plus revenue aux réunions que je tenais. Peu de temps après, le diable la fit passer par une mort prématurée pour la garder pour l'éternité. 9. Des mouvements incontrôlables, les mains, les jambes, la tête, les yeux, les cordes vocales, la langue, les joues, les muscles, les pieds, etc., remuent tout seul. J'ai déjà rencontré des gens dont la tête est secouée par une force étrangère lorsqu'ils sont dans une réunion de prière. J'ai vu des mains trembler, des gens grincer des dents, comme s'ils parlaient en langue. Un jour, une sœur vint chez nous et un muscle de sa jambe se mit à remuer de façon incontrôlée pendant près de 30 minutes. C'était gênant. Je lui suggérais qu'elle avait besoin de délivrance, mais elle éclata plutôt de rire et s'en alla. Une autre sœur vint avec son mari, qui est aussi un frère en Christ, à notre clinique pour maladies spirituelles, pour être délivrée. À peine avions-nous commencé à lui parler qu'elle tourna les yeux vers moi. Ils étaient totalement révulsés et tout à fait effrayants. Il s'agit là d'un incident très récent. Je ne sais pas si j'aurais pu continuer à rester là si j'avais été seule. Je n'avais jamais vu un tel regard auparavant. Puis je remarquai autre chose. Elle étendit ses jambes et ses orteils commencèrent à bouger de façon étrange. La jambe commença à se tordre d'une manière horrible. Nous étions en présence de démons. Gloire soit au Seigneur, car avant de rentrer chez elle ce soir-là, elle fut délivrée. Elle est demeurée délivrée et grandit dans la grâce. Au cours d'un autre incident, une église pentecôtiste du Nord-Ouest envoya l'un de ses membres à notre clinique pour être délivrée. C'était une femme d'environ 55 ans qui était convertie depuis 5 ans. Dès son arrivée, nous commençâmes à prier. Puis elle s'écroula et les démons commencèrent à lui tordre le cou. Je vis son cou se tordre avec vigueur. Elle criait de douleur. Nous essayâmes de pousser son cou dans la direction opposée, mais la force de torsion des démons était beaucoup plus grande. Elle était dans une agonie profonde et je compris tout de suite que les démons voulaient l'étrangler avant sa délivrance. Je criai à Dieu et priai en d'autres langues. Je demandai une aide immédiate d'en haut. Je demandai l'aide des anges et le Seigneur envoya cette aide immédiatement car la torsion de son cou cessa. Nous pûmes alors la délivrer. Une autre fois, un frère s'était levé pour imposer les mains à quelqu'un en vue du baptême dans le Saint-Esprit. Ses mains et ses doigts remuaient de façon incontrôlable. Il n'était pas apte à exercer un ministère. Il avait lui-même besoin de ministère? 10. Une humeur incontrôlable. Je connais des gens dont l'humeur est si changeante qu'il suffit de les quitter une minute pour qu'ils soient devenus si différents à notre retour qu'on les prendrait pour d'autres personnes. C'est le signe qu'il y a quelqu'un d'autre qui contrôle ces personnes, probablement un démon. 11. Un attachement inhabituel aux choses vaines. 12. Un amour inhabituel pour l'argent, les choses, etc., qui frise l'idolâtrie. Une telle personne préfère généralement les choses aux personnes. Elle accepterait de sacrifier pour de l'argent sa femme, ses enfants, ses amis ou les membres de sa famille. Dans toutes ses relations, elle est toujours en train de marchander et ses marchandages portent toujours sur l'argent et les biens matériels. 13. Un esprit de manque de pardon. 14. Un esprit de suspicion. 15. Des pertes de mémoire inhabituelles. 16. Une volonté trop forte entêtement. 17. Une volonté trop faible. 18. Des émotions incontrôlables. Un tel démon pousse la personne à s'engager dans des relations sentimentales à droite et à gauche. Aujourd'hui, elle peut être en train de mourir d'amour pour monsieur. À bientôt, elle a oublié monsieur. A. Et commence à mourir pour monsieur. B. Avant que cette relation ne se stabilise, elle n'est plus intéressée par monsieur. B. C'est monsieur. C'est qui devient maintenant son héros. Elle semble tomber amoureuse à 100% et cesse aussi d'aimer à 100% en l'espace de quelques jours, semaines ou mois. Elle se plaint d'avoir le cœur brisé, mais son cœur est brisé aujourd'hui, guéri demain et brisé à nouveau le surlendemain. 19. Une insensibilité inhabituelle. 20. Une force inhabituelle. Les démons manifestent souvent une force inhabituelle. Je me rappelle un soir où toute l'assemblée était réunie. Nous avions demandé à tous les démons présents dans la salle de se manifester au nom du Seigneur Jésus. Une jeune sœur de 18 ans, mince et pesant environ 50 kilos, commença à parler en d'autres langues, puis elle s'écroula au sol en poussant un grand cri et se réfugia sous les bancs. Elle s'y agrippa si fortement que nous ne pûmes la tirer de là. Nous dûmes déplacer les bancs pour la faire sortir. À côté d'elle se tenait un diacre qui pesait environ 68 kilos. Tout à coup, cette jeune fille le souleva d'une main et elle était sur le point de le précipiter à terre lorsque nous nous interposâmes pour le secourir. Pendant sa délivrance, qui dura environ 4 heures, elle nous raconta ce qui lui était arrivé. À l'âge de 11 ans, sa grand-mère lui avait dit qu'elle était fiancée à un esprit des eaux. Elle ne devait donc épouser personne d'autre. Après sa conversion, cet esprit vint une nuit et l'emmena dans les profondeurs de l'océan pour lui montrer sa demeure. Il lui dit qu'il y avait quelque chose en elle qui faisait obstacle à leur mariage et que quelqu'un en elle lui résistait. Il essaya d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais ce fut un combat acharné qui se termina par la victoire de la sœur. La nuit où cette manifestation eut lieu, cet esprit se tenait à l'extérieur du centre évangélique, lui demandant de venir avec lui. Après sa délivrance, les langues qu'elle parlait cessèrent. Nous commandâmes à l'esprit de ne plus jamais revenir en elle. Avant sa délivrance, elle avait une force inhabituelle. Nous l'avions constaté à plusieurs reprises. Il m'est arrivé de recevoir de violents coups, frappé par des gringalets qui, sous l'influence de démons, étaient devenus soudainement très forts. Néanmoins, d'autres démons se comportent de façon différente. Je peux aussi citer le cas d'une jeune fille qu'on délivrait et qui était violemment désireuse d'exposer sa poitrine et ses parties sexuelles. C'était peut-être un esprit d'impureté ou alors une tactique de l'ennemi pour essayer de faire naître la convoitise dans nos cœurs et, de ce fait, nous faire perdre le pouvoir de la délivrer. La puissance et la sainteté sont étroitement liées. Nous tâmes fermes dans la vie de sainteté dans laquelle nous étions entrés, par la foi en l'œuvre accomplie à la croix, et nous la délivrâmes. Oui, les démons peuvent être extrêmement forts. Vous vous souvenez du démoniaque qui, dans la Bible, avait brisé toutes les chaînes avec lesquelles il était attaché. Après la délivrance, cette force surnaturelle disparaît généralement. les manifestations démoniaques sous forme de maladies? Comme nous le verrons au chapitre suivant, Jésus chassa des démons qui se manifestaient par les maladies suivantes. 1. L'épilepsie, 2. La cécité et mutisme, 3. L'infirmité d'une femme qui était courbée depuis 18 ans sans pouvoir se relever, 4. Les convulsions. De nos jours, beaucoup de maladies rencontrées dans notre monde sont le résultat de la présence de démons dans les corps. Ces maladies ne guériront pas par l'intervention d'un ministère de guérison. Elles ne guériront qu'après l'intervention d'un ministère de délivrance. Dès que les démons auront été chassés, la personne retrouvera une santé parfaite. Mais il faut noter que toutes les maladies ne sont pas d'origine démoniaque. C'est de la folie de chasser des démons là où ils ne sont pas présents parce que la personne est malade. L'œuvre des démons dans les non-chrétiens. Quel est le dessein des démons lorsqu'ils habitent dans les non-chrétiens? Leur but n'est pas simplement de produire des manifestations. Leur but est d'empêcher que les gens parviennent à une foi vivante au Seigneur Jésus-Christ et de résister au dessein éternel de Dieu qui voudrait que Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. Si les démons empêchent quelqu'un de venir au Seigneur Jésus, ils ont parfaitement accompli leur œuvre. Ainsi, les démons sont constamment en guerre contre les non-chrétiens pour les empêcher de venir au salut. Voici comment Satan agit. 1. Il rend les hommes spirituellement aveugles. L'apôtre dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3-4. Le Dieu de ce siècle utilise les démons pour accomplir cette œuvre d'aveuglement des non-chrétiens. Il les rend aveugles en leur faisant voir Jésus comme l'un des nombreux prophètes, l'une des nombreuses voies pour revenir à Dieu, un bon exemple. Il fait en sorte que la mort de Jésus sur la croix soit voilée aux non-chrétiens. Il attaque la doctrine de la mort substitutive de Christ sur la croix. Il leur fait voir Jésus comme un bon exemple à imiter, mais non comme le sauveur qu'il faut recevoir. Il les aveugle sur leur péché et sur ses conséquences. Il les aveugle sur le salaire du péché, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu dans le lac de feu. Il les aveugle quant à l'urgence du salut et les trompe en leur faisant penser qu'ils ont encore beaucoup de temps et qu'ils peuvent se repentir plus tard. 2. Il les trompe en leur faisant penser que Dieu est trop bon pour punir les pécheurs à jamais. Il les trompe en leur faisant penser que Dieu aura pitié d'eux parce qu'ils sont nombreux. Il trompe certains en leur faisant penser que toutes les belles filles et les musiciens seront dans le lac de feu et qu'ainsi ce sera plaisant d'y vivre. Il les trompe en leur faisant penser que la vie en Christ est ennuyeuse et monotone. Il les trompe en leur faisant croire qu'on s'ennuiera au ciel à chanter beaucoup de chants lugubres. Il les trompe en leur faisant croire que compte tenu du fait qu'il y aura un si grand nombre de pécheurs dans le lac de feu, la punition sera moins pénible. Il les trompe par beaucoup d'autres arguments insensés. 3. Il les remplit de haine pour les prédicateurs, spécialement pour les évangélistes. Il leur donne d'avoir des préjugés sur ce qui est prêché. Il remplit le monde de mensonges au sujet des évangélistes, de leurs finances, de leur rapport avec les gens, de leur vie sexuelle, etc. et utilise ces mensonges pour faire croire aux gens qu'ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent et qu'il est par conséquent inutile de les écouter. 4. Il les pousse à ne pas penser sérieusement au sens de leur vie. Il les accapare par beaucoup de choses inutiles qui les absorbent, le football, l'alcool, les réunions tribales, etc. Il les pousse à faire toutes ces choses l'une après l'autre. Il fait en sorte qu'ils soient totalement préoccupés par des choses non essentielles afin de les amener ainsi à passer à côté des choses essentielles de la vie. 5. Il les force à s'engager totalement dans les sociétés secrètes d'origine camerounaise comme le Gondo, l'Ogboni, le Famla, le Niamkwa, l'Obasanjo, etc. Par leur engagement dans ces sociétés secrètes, leurs cœurs sont totalement séduits et emprisonnés. Ils deviennent ainsi l'habitation de nombreux démons et leur damnation est scellée. 6. Il les séduit pour qu'ils deviennent membres de sociétés secrètes d'origine étrangère telles que l'Ordre Rosicrucien, la franc-maçonnerie, la croix et les étoiles, etc., de sorte qu'ils soient complètement perdus pour Dieu. 7. Il les pousse à mettre leur foi en l'une des religions qui garantissent à ses adhérents une place dans le lac de feu, tels que le bouddhisme, la foi bahaï, l'islam, le communisme, etc. Dans ces religions, où l'homme est son propre sauveur, puisqu'il n'y a ni sauveur ni croix, les gens sont perdus de façon définitive. 8. Il fait en sorte que les enfants soient dédiés à une idole quelconque par leurs parents, ou baptisés en Satan, qui les tient ainsi sous sa domination, éveillés à ce qu'ils ne croient jamais. 9. Il transforme certains en médiums, afin que leur probabilité d'entendre l'évangile et de croire soit grandement réduite. 10. Il possède complètement certains non-chrétiens, les rendant totalement fous, afin qu'ils ne puissent jamais répondre à l'évangile. 11. Il fait en sorte que certains soient habités par des démons de surdité et de cécité pour réduire ainsi sévèrement la probabilité qu'ils répondent à l'évangile. 12. Il veille à ce que des populations entières restent analphabètes, afin que la communication de la parole de Dieu soit sévèrement limitée. Par conséquent, il fait en sorte qu'ils ne puissent jamais écouter l'évangile. 13. Il possède certaines personnes et les tue avant qu'elles aient cru, afin de s'assurer qu'elles lui appartiennent à jamais. La réponse à tous ces efforts et activités de Satan pour combattre l'évangile, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes réellement remplis du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui marchent réellement tout près du Seigneur? Des hommes et des femmes qui veulent et qui peuvent se revêtir de toutes les armes de Dieu pour résister à Satan? Des hommes et des femmes qui savent ce que Jésus a accompli à la croix pour anéantir tous les démons? Des hommes et des femmes qui prient? Les démons sont en guerre pour empêcher les gens de se détourner du péché et d'aller à Christ. L'Église doit entrer en guerre contre le diable et ses serviteurs. En fait, l'Église est en guerre. En rendant témoignage aux gens, j'ai quelquefois senti qu'ils avaient un blocage pour écouter ou pour comprendre l'Évangile. Récemment, j'ai appris à m'arrêter et à commander directement aux démons qui étaient à l'œuvre, leur demandant de se retirer pour laisser la personne écouter l'Évangile. Parfois, j'ai d'abord commandé aux démons de l'incrédulité de quitter la personne, puis j'ai continué à présenter les exigences de Christ. Parfois, c'est le démon de la distraction qui oblige la personne à passer d'un sujet à l'autre sans pouvoir se concentrer sur le thème central. En certaines occasions, j'ai commandé en silence à cet esprit de partir, mais j'ai dû parfois parler à haute voix. Dans chacun des cas, les choses ont changé après avoir commandé au démon d'arrêter de s'interposer entre la personne et moi. L'évangélisation, c'est faire violence au royaume de Satan? Cependant, dans toutes les guerres, il y a des pertes dans les deux camps. Depuis 18 ans, j'ai eu de nombreux combats avec le diable. Je me rappelle un événement qui s'est produit alors que j'enseignais à l'université de Makerere à Kampala. Dans un camp de jeunes, le Seigneur nous avait parlé de l'évangélisation personnelle. Je lui dédiais une semaine pendant laquelle je devais évangéliser 8 heures par jour. Je sortais de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Un jour, dans l'un des parcs de Kampala, je vis 3 jeunes gens. Je leur demandai la permission de leur parler du Seigneur Jésus. Deux refusèrent mais l'autre accepta. Les deux premiers s'en allèrent et me laissèrent parler à celui qui était disposé à écouter. Ce fut un bon moment de témoignage et le jeune homme répondait très bien à l'Évangile. Nous continuâmes ainsi jusqu'au moment où il fut sur le point de prier et de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est alors que l'un des raids les plus rapides de tous les temps se produisit. Les deux autres jeunes qui avaient refusé d'écouter l'Évangile se précipitèrent tout à coup sur celui qui était sur le point de prier, le soulevèrent et s'enfuirent avec lui comme dans un véritable raid éclair. Je restai planté là, frappé de stupeur. Je n'avais pas prévu cela. J'avais prié qu'ils puissent croire, mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'un tel raid physique soit possible et, par conséquent, je ne m'en étais pas soucié. L'ennemi vit ce point faible, qui n'était pas couvert par la prière. Il intervint et je perdis la bataille. Depuis lors, j'ai appris à placer sous le sang de l'agneau tous les aspects d'une rencontre d'évangélisation, qu'elle soit personnelle ou sous forme de croisade. C'est nécessaire et ça marche. Gloire à Dieu. Le diable et ses démons peuvent être tenus en échec dans chaque affrontement, mais nous devons payer le prix. Amen. Chapitre 2 : L'attaque des chrétiens par les démons. Introduction. Bien que les démons aient librement accès à la vie des non-chrétiens, ils ne se dérangent pas beaucoup à leur sujet, pourvu qu'ils les empêchent d'arriver à une foi totale et à un engagement total envers le Seigneur Jésus. Ainsi, aussi longtemps que quelqu'un demeure dans l'incrédulité, les desseins de Satan, pour lui, sont accomplis. Il peut vouloir utiliser ceux qu'il tient dans l'incrédulité de plusieurs manières, mais il s'agit là d'une affaire secondaire. Le non-chrétien est d'une certaine manière enfant du diable. Le Seigneur Jésus dit aux pharisiens et aux scribes de son temps, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père » Jean 8, 44. Il dit encore « Le champ c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. » L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable Matthieu 13, 38-39. Le non-chrétien étant le fils de Satan et les démons étant les soldats du diable, ils n'auront pas tendance à causer beaucoup de dommages aux fils de leur maître. Leur rage et leur furie sont réservées aux chrétiens, car ceux-ci sont les enfants de Dieu, qui est l'ennemi principal du diable. Il faut prévoir que, dès qu'une personne a cru au Seigneur Jésus et a par conséquent été transférée du royaume de Satan à celui du Seigneur Jésus, ses conflits avec les démons commencent aussi. Avant cette date, il y avait harmonie entre elle et les démons, puisqu'ils servaient le même maître, le même but, le même royaume et la volonté du même maître. Maintenant, les choses ont changé. Il y a un conflit. Il y a une guerre. Le chrétien sera attaqué par des démons et ils remporteront la victoire dans la mesure où on les laissera faire. En lisant ces mots, « Si tes péchés ont été lavés dans le sang de Jésus et puisqu'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il faut savoir que tu as été mise à prix. » Le diable l'a mise à prix. Un prix qu'il payera à tout démon qui pourra soit détruire ta foi ou, s'il n'y parvient pas, t'empêcher de devenir tout ce pourquoi Dieu t'a sauvé et tout ce qu'il veut que tu sois. S'il ne peut pas te faire sortir du royaume de Jésus, il veillera à ce que tu sois rendu aussi inutile que possible, bien qu'étant dans ce royaume. Il y a trois choses principales que le diable peut faire aux chrétiens par le moyen des démons. Il peut 1. Tromper les chrétiens 2. Oppresser les chrétiens 3. Habiter dans les chrétiens. Il est souvent difficile de distinguer entre une oppression des démons, ce qui signifie que les démons sont à l'extérieur du chrétien et agissent de l'extérieur, et une habitation à l'intérieur du chrétien, ce qui signifie que les démons agissent de l'intérieur. À cause de cela, il existe des désaccords inutiles entre les chrétiens. Il ne devrait pas en être ainsi. Ce qui est important, ce n'est pas que les démons agissent de l'intérieur ou de l'extérieur. La chose la plus importante est d'arrêter leur activité et de délivrer le chrétien. Si quelqu'un est délivré, que ce soit des démons qui l'oppressent ou des démons qui ont pris résidence en lui, il est délivré et le Seigneur en est glorifié. Selon notre compréhension des Écritures et selon notre expérience dans le ministère de délivrance, expérience qui a concerné environ 100 personnes différentes dans divers pays, et sur une période de 10 ans, nous avons eu affaire à des chrétiens qui étaient de toute évidence habités par un ou plusieurs démons.